commence plus tard.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحبتي الكرام ما زلنا مع قراءة شرح الأدب المفرد لشيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. طيب، وقد توقفنا في درسنا الماضي عند باب بر الوالدين بعد موتهما، وقرأنا شرح الحديث الأول، ونحن اليوم في الحديث الثاني من هذا الباب. فأخانا أشرف إن شاء الله أو الأخ طيب يقرأ، بارك الله فيك.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذه فيقال ولدك استغفر لك.
نعم أحسنت، بارك الله فيك. إسلام استبرين.
Élève les degrés du défunt après sa mort. Celui-ci demande au Seigneur d'où provient cela. On lui répond, cela vient de ton enfant, il implore le pardon pour toi.
طيب أحسنت. يقول الشيخ حفظه الله تعالى درجة الحديث حسن الإسناد. فهذا الحديث حديث حسن بهذا الإسناد، وهو موقوف له حكم الرفع، وهو موقوف لكن له حكم الرفع. والحديث أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وأحمد وابن ماجه مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، كما تجد ذلك محررا في السلسلة الصحيحة، ولكنه هاهنا موقوف له حكم الرفع لأنه يتكلم عن مسألة غيبية لا مدخل للعقل فيها بحال ولا تعلم إلا بالوحي المعصوم. Donc le hadith, mes frères, sa chaîne de transmission, elle est bonne. طيب. Même si le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, رحمه الله تعالى, ici, est un hadith qui est mawquf. C'est-à-dire dont la parole remonte et s'arrête à un compagnon. D'accord ? La parole ici, elle ne remonte pas jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole du compagnon Abu Huraira. Donc on dit que le hadith, il est mawquf. Tandis que le hadith qui remonte jusqu'à Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, on dit hadith marfou'. Taïeb, compagnon mawquf. Tabi'i. D'accord ? Mais il faut savoir que le fait que le hadith il soit marfou' ne veut pas forcément dire qu'il est sahih. Il peut être marfou' et da'if, comme il peut être maqtou' et sahih. Donc il n'y a pas de lien entre où va jusqu'à la parole et l'authenticité ou pas du hadith. Donc marfou' موقوف مقطوع c'est juste par rapport à où la parole s'arrête. C'est la parole de qui ? D'un tabi'i, d'un sahabi ou d'un nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc là, même si le hadith il est موقوف, eh bien il est quand même authentique. Ça veut dire que Abu Huraira a bien prononcé cette parole là. Alhamdulillah. Lakin, cela dit, il a quand même le jugement de marfou'. Donc il est mawquf avec le jugement de marfou'. C'est-à-dire qu'en vérité, Abu Huraira ne peut pas dire ce genre de parole sans l'avoir entendu de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car il dit ici que le hadith a été rapporté également par d'autres savants tels que Abu Nu'aym ou Al-Lalaka'i ou Ahmed ou Ibn Majah, mais leur version à eux, elle est marfou'a. D'accord ? Eux, ils ont rapporté une version qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb ? Mais, comme on a dit, la version qu'a rapportée Al-Bukhari, même s'il est mawquf, il a le jugement de marfou'a. Pour quelle raison ? Car les compagnons ne peuvent pas parler sur des choses de l'au-delà, hein, yani, sans l'avoir pris du prophète lui-même. Donc là, il parle des choses de l'akhira. Comme quoi la personne, fil akhira, elle peut être élevée en degré par la cause de l'istighfar, de la demande de pardon de son enfant ou de ses enfants. Donc ça, ils ne peuvent pas sortir cette chose-là d'eux-mêmes ou de leur tête. D'accord ? Forcément, ils l'ont pris car ils l'ont entendu du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on dit هذا الحديث موقوف لكن مرفوع حكما. Il a le jugement de مرفوع. طيب الحمد لله. رجال الإسناد أحمد ابن يونس وهو أحمد ابن عبد الله ابن يونس ثقة متقن. Donc parmi les rapporteurs, inshallah, on a Ahmed ibn Yunus. Donc c'est la personne dont Al-Bukhari a pris le hadith, Ahmed ibn Yunus, qui fait partie des rapporteurs de hadith fiables. Thumma Abu Bakr, wa huwa ibn Ayyash, saduqun salih. Puis on a ibn Ayyash, Abu Bakr, qui fait partie également des rapporteurs qui sont saduq. Puis on a Asim, huwa ibn Bahdala, wa huwa ibn Abi al-Najud. Puis on a Asim qui s'appelle Ibn Bahdala, Ibn Abin Najoud, qui fait partie également des rapporteurs Sadouq. D'accord ? Donc je ne rentre pas dans les détails des termes, car en vérité, cela doit se faire dans les études des livres, dans la science du hadith. D'accord ? Car en vérité, il y a une différence entre Thiqa, entre Sadouq, entre mutqin, entre salih, il y a une différence dans tout ça. Mais de manière générale, tous ces termes-là impliquent que l'on peut prendre le hadith de la personne. D'accord ? Le hadith de tous ces gens-là qui sont sadour, thiqa, mutqin, salih, le hadith est acceptable. Na'am. Ma'ani al-kalimat. هناك شرح الشيخ رحمه الله وحفظه كلمات من حديث آخر لكن في الباب نفسه. يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية. يقول على اختلاف وجوه البر التي تنفق فيها الصدقات كالفقراء والمساكين والأوقاف على طلبة العلم وكل ما ينفع الناس من المال والمتاع. Donc ici le cheikh va expliquer les termes d'un autre hadith. D'accord ? D'un autre hadith, mais qui concerne donc le même chapitre. Il dit la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam: lorsque l'enfant de Adam décède, ses œuvres sont interrompues. Donc le hadith, il est connu de tous, inshallah, sauf trois choses. Il dit une sadaqa, une aumône ininterrompue, jariya, continue, ininterrompue. D'accord? Naam. Donc il dit le cheikh Raslan Hafidhahullah Ta'ala, donc les aumônes, quel que soit le domaine dans lequel a été versée cette aumône. D'accord? Que ce soit yani, en faveur des pauvres musulmans ou pour le fait de d'acheter un bien et de le donner aux musulmans ou pour les étudiants en sciences, مثلاً, d'accord? Le fait d'acheter par exemple un bâtiment ou des édifices, des chambres, des cuisines, etc., des salles de bain, yani pour les étudiants en sciences, gratuitement, pour pouvoir les loger gratuitement, d'accord? Dans un pays musulman tel que l'Égypte ou la Saoudia, مثلاً, eh bien cela rend dans le terme sadaqatun jariya, d'accord? Non, tout ce qui donc profite matériellement et financièrement aux gens, d'accord, rentre dans le terme sadaqa jariya ou ilmin yuntafa'u bihi. Idan min al-thalath ilmun yuntafa'u bihi ay khalaf al-mayyit ilman yantafi'u bihi an-nasu ba'da mamatihi فأجره جار عليه إلى يوم القيامة لأنه ينتفع به في أمر الدين وليس هذا قاصرا على المؤلفات ليس هذا مقاصرا على أو قاصرا على المؤلفات ولكن من تعلم وعلم الناس في حلقات العلم وبذل النصائح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس فعمل به الناس من بعده وبلغوه غيرهم وهكذا العلم ينقل الثقة عن الثقة هكذا العلم ينقل الثقة عن الثقة يتناقله الناس فيكون الأجر للمعلم الأول بالدرجة الأولى بعد مماته وفي أيام حياته ثم كل من بذل جهده في تعلم ونشر العلم نال أجر العلم النافع الذي يخلفه الإنسان. Parmi ces trois choses qui profitent aux morts après sa mort, il y a une science profitable, une science dont on profite. D'accord? Donc lorsque la personne décède, mais elle laisse derrière elle une science dont les gens profitent après sa mort, eh bien, sa récompense, elle est également continue. Elle continue à grossir et à grandir pour le défunt, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Car cette science-là, les gens en profitent dans les choses de leur religion. Et sachez que ce n'est pas restreint seulement au livre, d'accord, c'est pas obligatoirement à travers la rédaction d'un livre ou d'un ouvrage écrit, non. Toute personne qui a appris et puis qui a enseigné aux gens, yani mathalan, à travers les assises de science, toute personne qui a prodigué des conseils, qui a ordonné le bien, qui a interdit le mal, qui a orienté les gens et indiqué aux gens le bien, puis les gens l'ont mis en pratique après lui et l'ont transmis à autrui après lui, eh bien, sa récompense également, yani, lui revient même après sa mort. Car c'est ainsi que la science se transmet. La science, yani les hadiths, bien sûr, mais pas que les hadiths, toute science se transmet d'une personne qui est fiable et viable à une personne qui est fiable et viable, qui va ensuite transmettre de génération en génération cette science-là. Donc la récompense, elle revient au premier qui a transmis en priorité. C'est pour ça que la récompense la plus grande revient à qui? Elle revient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez la récompense qui lui revient. C'est pas pour rien qu'il se retrouvera, yani, au plus haut sommet du paradis. Mais après lui, chaque personne qui a transmis, elle aura aussi la récompense, yani, de chaque science qu'il aura propagée et qu'il aura enseignée aux gens. Non. Que ce soit après sa mort ou, bien sûr, durant sa vie. Donc, tous ceux qui ont déployé des efforts dans l'apprentissage, avant tout, bien sûr, l'apprentissage, puis dans la propagation de ce qu'il a appris, eh bien, il aura la récompense de ce savoir-là qui a profité et qu'il a laissé après sa mort. فَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ لَا يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ أَنَّ الْعِلْمَ النَّافِعَ هُوَ مَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُؤَلَّفَاتِ فَقَدْ بَلْ هِيَ بِالدَّرَجَةِ الْأُولَى نَعَمْ لِأَنَّهَا تُحْفَظْ وَتَنْتَشِرُ فِي الْآفَاقِ ولكن يلحق بذلك التعليم تعليم الناس ونصحهم وإرشادهم وينقله اللاحق عن السابق ويتوارثونه منقولا عن الأول فهو علم نافع أيضا يؤجر عليه من بذله أولا ويؤجر عليه من نقله ومن عمل به. Donc, en conclusion, il faut pas que il te vienne à l'esprit que la seule science profitable aboutissant à la récompense de la personne après sa mort se trouve seulement dans les ouvrages, dans les livres. Non. C'est vrai que les ouvrages, les livres, yani, sont l'un des meilleurs moyens pour préserver la science, car elle sera préservée sur des pages, dans des livres protégés. D'accord ? Et qu'il est sûrement plus facile de propager des livres dans le monde entier, taïeb, qu'une simple parole, même si aujourd'hui, en vérité, grâce à Internet, grâce à tous ces systèmes de communication, hein, même une parole que tu as prononcée et que tu as enregistrée sur WhatsApp, eh bien, tu peux la propager dans le monde entier, en quelques secondes. Taïeb, c'est vrai qu'à l'époque, c'était par le biais des livres, etc. Aujourd'hui, par le biais d'Internet, la propagation se fait beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Taïeb ? Même si c'est à double tranchant. D'accord ? Le bien comme le mal. Donc le mal aussi se propage beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Non. Mais bien sûr, pas seulement les livres, mais également l'enseignement. Donc les assises de science, le fait d'enseigner aux gens, le fait de conseiller les gens, les proches, etc., de les orienter, na'am, eh bien, celui qui a appris une science, il va l'apprendre, il va la propager, car il a appris de celui qui l'a précédé, et ainsi de suite, de génération en génération. Et c'est ainsi que la science s'hérite, na'am, c'est une forme d'héritage qui se transmet comme cela. طيب ما يؤخذ من الحديث اولا فضل استغفار الولد لوالديه. Ce que l'on tire du hadith, premièrement le mérite de la demande de pardon en faveur de ses parents. D'accord, le fait de demander pardon pour ses parents. Non. Vivant ou après leur mort? S'ils sont musulmans, bien sûr. S'ils sont morts sur l'islam, voyez, le fait de leur demander pardon. ثم الحث على الدعاء للوالدين بعد موتهما. Deuxièmement, l'incitation à invoquer pour ces deux parents après leur mort. D'accord? La demande de pardon, mais également, bien sûr, l'invocation de manière جنرال. نعم. فالهنا في هذا الحديث يقول علم ينتفع به، علم ينتفع به. قال العلماء علم قد أفرده النبي صلى الله عليه وسلم ليبين يعني شأنه، يبين شأنه. وكذلك قال العلماء العلم الذي لا ينتفع به يخشى أن يكون وبالا على صاحبه، العلم الذي لا ينتفع به يخشى أن يكون وبالا على صاحبه كالعلم الضار مثلا. العلماء يجيز par rapport à la science ici de la hadith, la science a été citée au singulier. علم ينتفع به، une science. Ça, c'est une manière de s'exprimer afin de montrer l'importance et la valeur de la science. D'accord ? العلم ou علم, une science. Il faut savoir aussi que les ulama disent que la science qui ne profite pas, celui qui laisse une science qui ne profite pas aux gens, eh bien ils disent que on craint pour eux qu'elle soit au contraire un fléau pour ces gens-là après leur mort, comme les sciences qui sont nuisibles à la personne. Toute science nuisible, on ne parle pas seulement de la science religieuse, mais une science même de la dunya, mais qui est nuisible à la personne, eh bien cette science-là, elle est un fléau, elle représente un fléau pour la personne même après sa mort. Ça veut dire que la personne prendra, continuera à prendre des péchés même après sa mort s'il a laissé une science qui est non profitable ou nuisible. Que dire alors de la religion telle que celui qui a enseigné aux gens des bid'ah, des innovations religieuses, mukhalafat, des choses qui s'opposent à la charia, des choses carrément qui atteignent le degré de shirk. Celui-là, il continuera, même après sa mort, hein, à porter les fardeaux et les péchés de cette science-là. Allah la musta'an. طيب ثم بالنسبة لي الولد الصالح يقول ولد صالح. يقول العلماء ولد صالح أولا بمعنى الولد المؤمن كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، ولد مؤمن، لأن الصلاح لا يكون إلا بعد الإيمان. الصلاح لا يكون إلا بعد الإيمان كما قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ندخلنهم في الصالحين. طيب. وقيل إن صلاح الولد لا يكفي في جريان الثواب لوالده، بل لا بد من دعائه له. لكن الصحيح أنه يحصل الثواب بكل عمل صالح من الولد، سواء دعا لأبيه أم لم يدع، لأن الله تبارك وتعالى يثيب العبد بكل عمل يتوقف وجوده بوجه ما على كسبه مباشرة أو تسببا، مباشرة أو تسببا. طيب. نعم. par rapport à l'enfant صالح، ici l'enfant صالح c'est-à-dire l'enfant croyant. D'accord. ça veut dire l'enfant et ça désigne l'enfant croyant. car الصالح qu'on peut traduire par la vertu ne peut se réaliser qu'après avoir cru. D'accord. C'est pour cela qu'Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate Al-Ankabut, dans le sens rapproché, il a dit Et ceux qui ont cru et ont fait des bonnes œuvres, nous le ferons rentrer parmi les salihin. D'accord ? Ceux qui ont cru et ont fait des bonnes œuvres. Les ulama disent, certains, que le fait que l'enfant soit croyant, ça ne suffit pas pour que la personne, pour que le père ou la mère continue à avoir des récompenses après leur mort. Mais il faut impérativement que l'enfant invoque, fasse des invocations. Comme on le voit dans le hadith. Waladun salihun yad'u lah. Un enfant pieux qui invoque pour lui. Donc ils disent qu'il ne suffit pas que l'enfant soit pieux ou croyant, mais il faut qu'il invoque pour qu'il y ait cette continuité dans la récompense. Mais ce qui est authentique, c'est que la récompense continue à être donnée à la personne après sa mort pour toutes les actions que son enfant il fait. Pour toutes les bonnes actions, yani. Pas seulement l'invocation. Pas seulement l'invocation. Si le père a enseigné à son fils la prière, a enseigné à son fils le tawhid, a enseigné à son fils comment jeûner, comment verser la zakat, comment être bon envers les musulmans, etc. Eh bien, pour chaque action pieuse et pour chaque bonne œuvre, le père ou la mère en sera récompensé même après sa mort. C'est pas seulement la dua. C'est pas seulement la dua. D'accord ? Car Allah tabarak wa ta'ala récompense la personne qui a fait une bonne action, yani directement, c'est elle qui a fait la bonne action, mais aussi qui en a été la cause. Qui en a été la cause. Quelle que soit la bonne action. Ce n'est pas restreint ou limité à la dua ou l'invocation. Toute bonne action, quelle qu'elle soit. إذن القيد بالدعاء هنا يعني حظ حظ للولد على الدعاء لوالده طيب هذا حظ للولد على الدعاء لوالده كما مثلا أن غارس الشجر أو باني يعني كما قال الشيخ يعني الأوقاف على طلبة العلم وهكذا فلهما أجر كل من ينتفع بهذا الشجر أو بهذا المبنى أو بهذا الوقف طيب سواء دعا له الآكل من هذا الشجر أو الآوي أم لم يدعو له دونك ici le hadith النبي صلى الله عليه وسلم a parlé de manière particulière de la dua, de l'invocation. Cela afin d'inciter les enfants à invoquer pour leurs parents. Ça ne veut pas dire que c'est la seule action qui va faire que la personne continue à avoir des récompenses. Mais c'est pour inciter l'enfant à invoquer pour son père, à invoquer pour sa mère, à leur demander pardon, même après leur mort. Taïeb ? Mais sinon, la récompense continue pour la personne que son enfant invoque ou n'invoque pas. Qu'il n'invoque ou qu'elle n'invoque pas, la récompense continue tant que, bien sûr, il a inculqué à son enfant, yani, l'islam, le tawhid, la religion, la salat, etc., etc. Exemple, celui qui a planté un arbre. Il a planté un arbre où il a construit, comme on l'a dit tout à l'heure, un waqf, un bâtiment, un édifice pour les étudiants en sciences, pour les musulmans de manière générale. Eh bien, celui qui profitera de cet arbre, qui va manger de cet arbre, celui qui va profiter de ces maisons, de ces établissements, de ces propriétés laissées en héritage ou en donation aux musulmans, il sera une cause de récompense perpétuelle et continue pour la personne, même après sa mort, qu'ils invoquent ou pas pour lui, qu'ils invoquent ou pas, qu'ils fassent ou pas des invocations. D'accord ? Non, il se peut que la personne mange d'un arbre qui a été planté par un musulman, d'accord, mais la personne ne sait pas qui elle est, ou ne sait peut-être même pas que l'arbre a été planté par quelqu'un de façon volontaire, etc. Donc il se peut qu'elle ne fasse jamais d'invocation pour la personne. Mais est-ce que ça veut dire que la personne n'aura jamais sa récompense? Non. À chaque fruit, à chaque personne qui va profiter même de l'ombre de l'arbre qu'il a planté, la personne profite même après sa mort, subhanallah. Imaginez-vous les frères. Et ça, de génération en génération, ça peut durer des siècles et des siècles. Tant que l'arbre, il existe. Tant que le bâtiment, il existe. Tant que ce qu'il a inculqué, yani, est présent et profite aux gens. Ahsan, même les animaux, barakallahu fik, même les animaux qui profitent de cet arbre-là, subhanallah, la personne en est récompensée, bien sûr. Il faut savoir que le musulman est récompensé pour le bien qu'il fait pour toute créature. Pour toute créature. Toute créature vivante. Même une plante. Même une plante. Taïeb, un animal, un insecte, la personne est récompensée, subhanallah. Taïeb, ma yakhadhu min al-hadith aydan, bayanu anna l'istighfara lahu sabab li raf'i darajatihima. Naam, troisièmement, le fait que la demande de pardon est une cause d'élévation en degré pour la personne. Donc toi, quand tu demandes pardon pour tes parents qui sont décédés, musulmans, eh bien, ça peut être une cause d'élévation en degré pour eux. Il se peut qu'Allah Jalla wa Ala les élève en degré et leur pardonne, bien sûr, leurs péchés antérieurs. Savoir que la base de tout bien, c'est l'ilm. La base de tout bien, c'est l'ilm. Ilm yuntafa'u bihi. Ça veut dire que la science, c'est la base de tout. C'est la base que la personne va faire des sadaqat. C'est la science qui va faire que ton enfant va invoquer pour toi. D'ailleurs, donc si toi, tu laisses un enfant et qu'en plus, tu lui as inculqué cette science-là profitable, tu auras réuni ces deux choses-là. Tu auras réuni ces deux choses-là. Naam. Allahu a'lam. Bayanu anna du'a al-walad as-salih li walidayhi mustajab. Et quatrièmement, les frères, le fait que l'invocation de l'enfant croyant pour ses parents, elle est exaucée. L'invocation de l'enfant croyant pour ses parents est exaucée, comme on le voit dans ce hadith, car il dit تُرْفَعُ لِلْمَيْتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ. Le mort est élevé en degré après sa mort par la cause de la demande de pardon de son enfant. Donc c'est une cause, comme on a dit encore une fois, d'élévation en degré. Et donc l'invocation, on comprend par là que l'invocation de l'enfant croyant pour ses parents croyants, elle est exaucée. D'ailleurs. Akhi, bien sûr. Tous les parents. Non, les parents, yani d'en haut. Les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Rentre dans le terme Walid, Inch'Allah Ta'ala. D'accord ? Non. Akhi.
Mohamed Ibn Sirin a dit: une nuit nous étions auprès d'Abu Huraira, il a dit: Oh Allah, pardonne à Abu Huraira, à ma mère et à celui ou celle qui t'importe de leur pardonner. Mohammed a dit: Quant à nous, nous implorons Allah de leur pardonner de tous les lieux afin que nous fassions partie de l'invocation d'Abu Huraira.
أحسنت. طيب هذا الحديث صحيح الإسناد صحيح الإسناد هذا الحديث sa chaîne de transmission elle est authentique الحمد لله رجال الإسناد أولا يقول موسى وهو موسى ابن إسماعيل موسى ابن إسماعيل رحمه الله تعالى donc on a premièrement موسى ابن إسماعيل Rahimahullah ta'ala. Donc c'est la personne dont Al-Bukhari a pris le hadith. Moussa ibn Ismail al-Tabudaki. Rahimahullah. Thumma Salamu ibn Abi Muti'a. Wa huwa Salamu ibn Sa'd. Thiqatun sahibu sunna. Puis on a Salam ibn Abi Muti'a qui fait partie donc des rapporteurs fiables de hadith et des gens de la sunna. ثم غالب وهو ابن خطاف القطان ثقة هنا غالب ابن خطاف القطان رابورتور ثقة فيابل ما يأخذ من الحديث أولا الحرص على نيل دعوة الصحابة رضي الله عنهم فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبي هريرة ولأمه وللمؤمنين وللمؤمنات. Ce qu'on entend du hadith, premièrement, le souci de profiter de l'invocation qui ont été faites ou qui a été faite par les sahaba. D'accord ? Donc là, on a une invocation qui a été faite par Abu Huraira. Il dit Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, qui fait partie des grand parmi les tabi'in, il dit qu'il était donc un jour avec Abu Huraira lorsqu'il a dit Oh Allah. Donc Abu Huraira a fait une invocation à ce moment-là et il a dit Oh Allah, pardonne à Abu Huraira. D'accord ? Donc il a fait une invocation pour lui-même d'abord. Pardonne à Abu Huraira ainsi qu'à sa mère ainsi qu'à ceux ou celui qui demandent pardon pour eux. D'accord ? Et puis, Mohammed ibn Sirin, il a dit, et donc nous demandons pardon à eux deux, c'est-à-dire à Abu Huraira et à sa mère, afin que l'on fasse partie et afin que l'on profite de l'invocation de Abi Huraira. C'est pour ça qu'il dit le Cheikh, il faut que le musulman se soucie de pouvoir profiter de l'invocation des sahaba. D'accord ? C'est pour ça qu'il dit le cheikh ici, Raslan Fidallah, Oh Allah, pardonne-nous, ainsi que nos parents, ainsi que Abi Huraira, ainsi qu'à sa mère, aux croyants et aux croyantes. Donc il sera bienvenu, par exemple, Yannick, lorsque tu demandes pardon à Allah, tabarak wa ta'ala, en commençant par toi d'abord, car cela est ce qui est demandé. Tu commences par toi, ensuite par tes proches, tes parents, et tu peux dire par la suite, pardonne Abu Huraira, pardonne la mère de Abu Huraira, afin que tu puisses profiter, Inch'Allah, de la dua de Abu Huraira. Et bien sûr, tu demandes pardon aussi pour tous les croyants et pour toutes les croyantes de manière générale et globale, et tu auras pour chaque croyant sur terre, hein? Ou même pour tous les croyants qui ont existé depuis la création d'Adam alayhi salam, tu peux faire ça. Tu peux demander pardon à tous les croyants, à toutes les croyantes, yani de Adam jusqu'à la fin des temps. Eh bien, tu as la récompense pour chaque croyant et chaque croyante. Subhanallah. Non. Thani, bayanun. لمنقبة من مناقب أبي هريرة رضي الله عنه الكثيرة ومنقبة لأمه وفي نفس الوقت كرامة لها ولأنهما من أولياء الله الذين منحهم الله من المناقب الرفيعة والكرامات المبشرة. Et deuxièmement, on voit ici une des vertus de ce compagnon qui est Abi Huraira, parmi ses nombreuses vertus. On voit également le mérite de sa mère, hein? On voit donc la noblesse et la qualité de ces deux compagnons, car ils font partie des alliés d'Allah tabarak wa ta'ala, à qui Allah a donné justement de nombreuses vertus et de nombreux mérites. Des mérites yani, qui annoncent le bien et qui font que leurs dua sont acceptées bi'idhnillahi azza wa jal. Il faut donc que l'on déploie des efforts afin d'en profiter bi'idhnillah. Fa nas'alullah tabarak wa ta'ala an yaghfira lana wa li Abi Huraira wa li ummihi. Na'am. Tafaddal akhi.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا علاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
بارك الله فيك. سلام.
دكتور أبو هريرة رضي الله عنه. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur meurt, son œuvre cesse, excepté trois choses: une aumône durable, une science dont on tire bénéfice, et un enfant pieux qui invoque en faveur de ses parents.
Barakallahu fik. Al-hadith akhrajahu Muslim fi as-sahih kadhalik. Idhan hadha al-hadith sahih. Al-hadith authentique. Et il a été rapporté aussi par l'imam muslim dans As-Sahih. Rijal al-Isnad, Abu al-Rabi' wa huwa Sulaymanu ibn Dawud al-Atki al-Hafidh al-Thiqa. Donc Abu al-Rabi' Sulayman ibn Dawud al-Atki Hafidh al-Thiqa. طيب. ثم إسماعيل ibn Ja'far ibn Abi Kathir Thiqatun Ma'mun. ثم العلاء وهو ابن عبد الرحمن ابن يعقوب والثقة وثقه أحمد وثقه أحمد وكل العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب qui a été donc rendu fiable par l'imam Ahmed رحمه الله وأبيه وهو عبد الرحمن ابن يعقوب قال العجلي تابعي ثقة في هنا التابعي qui est عبد الرحمن ابن يعقوب fait partie également des personnes fiables dans le hadith. Ma'ani al-kalimat. Yaqul inqata'a arhamakallah. Inqata'a anhu 'amaluhu. Idha mata walad Adam aw ibn Adam aw fi hadhihi ar-riwaya al-'abd. Idha mata al-'abd inqata'a anhu 'amaluhu. Ay fa'idatu 'amalihi wa tajdidu thawabihi. Donc il dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le serviteur meurt, ses œuvres sont interrompues. C'est-à-dire que le bénéfice de ses œuvres, il est interrompu, il est stoppé. Ainsi que le renouvellement, tajdidu thawabihi, le renouvellement de sa récompense, elle est interrompue. إلا من ثلاث الحمد لله ومنها صدقة جارية أي دائمة متصلة. Donc parmi ces trois choses on a vu une aumône ininterrompue continue, c'est-à-dire دائمة نعم continue ininterrompue. صدقة جارية يقول تكون له صدقة يجري عليه ثوابها بعد موته إما بالإحسان إلى الفقراء كالأوقاف وإما ببناء مشاريع لإقامة الدين والفقه الإسلامي كبناء مدرسة أو بناء رباط والنفقة عليه وبناء مسجد ونحو ذلك من الصدقات أو حفر بئر ومد الماء للفقراء والمساكين كل هذه من الصدقة الجارية التي يجري ثوابها بعد موت من جعلت له ثوابا سواء من ماله أي من تركته التي خلفها أو من كسب أبنائه ذكورا أو إناثا أو كسب قريب من أقاربه فالمهم أنها على نية أن تكون صدقة جارية نعم Donc la صدقة جارية l'aumône ininterrompue c'est l'aumône qui continue encore une fois à profiter à la personne même après sa mort que ce soit une aumône qui a été faite en faveur des pauvres qui profite encore de son argent et de ses biens ou une aumône qui a servi à construire des édifices des bâtiments des propriétés en faveur des musulmans que ce soit des projets dans le but de propager la religion de propager la science comme une école par exemple mais également yani ribat ribat thughrin donc un ribat ici ce sont les comment on appelle ça un ribat des frères ce sont les endroits qui se trouvent aux frontières des pays ou aux frontières des villes qui servent à assurer la sécurité de l'endroit, la sécurité du pays, des frontières ou de la ville. D'accord ? Donc, on a ces genres de citadelles ou de casernes dans lesquelles travaillent des militaires ou des soldats ou des gens qui sont là pour protéger le pays ou l'endroit. Cet endroit-là, on l'appelle ribat. D'accord ? Donc toi, tu as donné de l'argent afin de construire ces genres de postes, d'avant-postes, yani, aux frontières, aux limites des pays, ou des villes, des grandes villes. Eh bien, même après ta mort, tu en es récompensé. Ça rentre aussi dans Sadaqa Jariya. Vous voyez ? Donc ce n'est pas seulement quelque chose qui va profiter au niveau de la religion, yani au niveau de la science religieuse, mais aussi pour la sécurité des musulmans. Pour la sécurité des musulmans, comme pour le fait de nourrir les pauvres, ou vêtir les pauvres, ou loger des pauvres. Tout ça rentre dans Sadaqa Jariya. D'accord ? Et bien sûr, la construction des mosquées fait partie également de ces sadaqat. Le forage d'un puits, ça aussi, le fait de forer un puits, hein? Le fait de faire couler une rivière, une source pour les pauvres et les nécessiteux, tout ça rentre dans la sadaqat al-jariya qui va profiter donc à la personne même après sa mort. Que cette sadaqa, elle a été prise yani de son héritage, il se peut qu'elle ait été prise après sa mort, d'accord ? Il peut laisser par exemple un testament dans lequel il a légué telle ou telle somme afin de construire une mosquée, afin de forer un puits, etc. Donc la personne est récompensée bien sûr. Et également l'héritage qu'il a laissé derrière lui à ses enfants, à ses héritiers, et que ces héritiers-là, avec cet héritage-là, ils ont construit ces choses-là, ils ont fait des bonnes œuvres avec l'argent qu'il a laissé. Avec l'argent qu'il a laissé, donc il en est également récompensé. Bihamdillah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que c'est bon les frères ? Alhamdulillah. Thumma ilmun, ilm yuntafa'u bihi. كالتعليم والتصنيف. Donc une science profitable, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que avant de mourir, il a propagé une science, il a enseigné une science, ou alors il a écrit des livres, il a rédigé des ouvrages, etc. Et ces ouvrages-là profitent aux gens après sa mort. Vous voyez ? Et pas seulement la rédaction des ouvrages, mais aussi le fait d'acheter des ouvrages, d'acheter des livres et de les donner hein, de les donner aux mosquées, de les donner aux musulmans, yani, cela rentre dans, également dans l'ilm al-nafi', l'ilm al-nafi', yantafa'u bihi ba'da mawti. Naam, le fait de propager des livres, yani, tu as acheté des livres et tu les as propagés dans les mosquées des musulmans, donc cela rentre également dans cette science-là. ثم ولد صالح قيد بصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره. Donc ici il a dit un enfant صالح, et on a dit que ça voulait dire un enfant croyant, un enfant croyant. Donc il a dit croyant parce que bien sûr celui qui laisse derrière lui un enfant qui n'est pas croyant, eh bien ne pourra jamais profiter de son enfant. D'accord? Donc un enfant croyant. أو ولد صالح يدعو له ولا يدعو لوالده إلا الصالح إلا الصالح أو إلا المؤمن الذي عرف حقه في حال الحياة فقام به وعرف حقه بعد الممات فبذل جهده في القيام بحق الوالدين بعد الممات ومن حقهما الدعاء لهما وصدقة عنهما وصلة قريبهما كل ذلك يجري ثوابها لأولئك الوالد أو الوالدة أو لهما معا ويجعل الله في ذلك ويجعل الله في ذلك بركة ويجعل في الولد بركة له في علمه وفي عمله وفي ماله وفي ولده ويهيئ له من يبره أو يبره في حال حياته وبعد مماته لأن الجزاء عند الله من جنس العمل وكما يدين المرء يدان. Donc un enfant croyant, pieux, qui invoque pour lui. Donc un enfant croyant, car seul un enfant croyant pourra invoquer pour son père ou pour sa mère. Car seul un enfant croyant et pieux connaît le droit de ses parents, de leur vivant. D'accord ? Et connaît leurs droits également après leur mort. Et par conséquent, c'est lui qui va déployer des efforts afin de respecter le droit de ses parents durant leur existence, bien sûr, durant leur vie, mais également après leur mort. Et parmi les droits des parents, eh bien, le fait d'invoquer pour eux. Parmi les droits des parents, le fait de donner des aumônes pour eux. D'accord ? Donc les ulama, ils sont unanimes pour dire qu'il est permis de faire des aumônes, des sadaqats, en faveur de tes parents qui sont morts. D'accord ? Tu fais une sadaqa pour ton père qui est décédé. Tu fais une sadaqa pour ta mère qui est décédée. Donc la récompense, yani, leur revient, alhamdoulilah, par ta cause. Et toi aussi, tu prends la récompense. Comme disent les ulama, toi aussi tu prends la récompense, non seulement de la sadaqa, mais aussi de la bienfaisance que tu as faite en faveur de tes parents. D'accord ? Non. Donc la sadaqa, c'est permis. Et les ulama, ils ont divergé pour d'autres adorations telles que as-salat, telles que qira'at al-Qur'an. Est-ce que tu as le droit de lire le Qur'an avec l'intention que ton père décédé ou ta mère décédée obtienne la récompense de cette lecture du Coran? Les savants, ils ont divergé. D'accord? Il y en a certains qui disent que dans les textes, il n'a été rapporté que As-Sadaqa et Al-Hajj. Et la Umrah, bien sûr. Ça, on l'a vu dans les textes. D'accord? As-Sadaqa profite aux parents décédés. Ou un défunt, quel que soit, qui qu'il soit, que ce soit tes parents ou quelqu'un d'autre. Et également le pèlerinage. Pour celui qui a déjà fait le pèlerinage pour lui, bien sûr, ou la Umrah, il a le droit de faire le pèlerinage ou la Umrah pour quelqu'un qui est décédé, pour qu'il ait la récompense. Mais hormis ces deux adorations-là, qui sont donc les adorations financières, économiques, telles que le sadaqa ou n'importe quelle adoration yani, financière, et le pèlerinage, hormis ces deux-là, les savants, ils ont divergé. Car pour les autres adorations telles que la salat ou la lecture du Coran, مثلا, il n'y a pas de texte. D'accord ? Il n'y a pas de texte. والصحيح إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم c'est que on doit s'en tenir au texte. On sort pas du texte. D'accord ?
On a dit que c'est bid'a.
Non, c'est pas permis. C'est pas légiféré. Rien de mashrou'. C'est pas légiféré. Il n'y a pas mieux que la doua, en vérité. Si tu veux profiter à quelqu'un qui est mort, invoque pour lui. Demande à Allah le pardon pour lui. Demande à Allah qu'il accepte son repentir et qu'il élève en degré au paradis. Tu peux aussi faire des aumônes, comme on a vu. Alhamdulillah. Non. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans cette doua, a mis dans cette sadaqa ou cette demande de pardon ou le fait de lier de continuer à garder des contacts avec les proches de tes parents, même après leur mort comme on a vu, avec leurs amis etc. Et tout ça fait partie des choses dans lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala a mis de baraka, a mis beaucoup de baraka alhamdulillah. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala mettra aussi dans cet enfant là de la baraka, que ce soit à travers cette science ou ces actes là ou ces biens. Naam. Et Allah Jalla wa Ala préparera donc pour celui qui a laissé un enfant pieux ou qui a laissé une sadaqa jariya ou qui a laissé une science profitable, Allah lui prépare non seulement durant sa vie, Allah Jalla wa Ala lui mettra de la baraka durant sa vie, mais également après sa mort, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui prépare une récompense énorme, car comme on dit, el jaza, pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, la récompense est de la même espèce que l'acte. La récompense est de la même nature que l'acte que tu as fait. D'accord ? Donc comme tu as fait durant ta vie, Allah Tabaraka wa Ta'ala agira avec toi après ta mort. Ça y est ? Comme tu as été une source de baraka durant ta vie, Allah Jalla wa Ala te réservera une baraka énorme fi al-akhira, dans l'au-delà. ما يؤخذ من الحديث أولا عدم انقطاع الثواب للأعمال الصالحة بعد الموت. Deuxièmement, la récompense des œuvres, des bonnes œuvres, elle est ininterrompue après la mort. D'accord ? La récompense des bonnes œuvres est ininterrompue après la mort, c'est-à-dire concernant ces choses-là que l'on a vues. الحث على التزود بالأعمال الصالحة في الآخرة. Deuxièmement, le hadith nous incite à nous ravitailler en bonnes actions. Nous incite à nous apprévisionner en bonnes actions pour l'au-delà. ثالثا الحظ على وقف أعمال يستمر نفعها كبناء المساجد والمدارس وحفر الآبار ونشر العلم بأي صورة من صور نشره. Troisièmement, il nous encourage également à faire des actes qui vont permettre qui vont permettre à ce que nos récompenses continuent à nous être données après la mort, telles que la construction des mosquées ou la construction des écoles pour les enfants. Naam. Donc celui qui a participé à ça, d'accord, n'imaginez pas que il faut forcément être tout seul à construire une mosquée, hein, qu'il faut dépenser donc peut-être des centaines de milliers d'euros. Non. Il suffit que tu aies participé, ne serait-ce qu'avec peut-être quelques euros, à la construction d'une mosquée. Tu as donné 50 euros, tu as donné 100 euros, tu as donné 1000 euros pour le forage d'un puits, pour la plantation d'un champ de pommes, de pommiers. Maintenant, tu as donné 100 euros pour la construction d'une école musulmane. De là, tu auras ta part de récompense. D'accord ? Non. Donc ce hadith nous incite à faire cela. Et également, yani, à propager la science. Et là aussi, c'est pareil. Ce n'est pas une chose qui est réservée aux ulama ou aux étudiants en sciences confirmés. Non. Toute personne qui a une part, une portion, un savoir authentique, il l'a bien assimilé, il l'a bien comprise, puis il l'a propagé, eh bien, il est concerné par le hadith. Il est concerné par le hadith. Et à chaque fois que cette science-là qu'il a transmise sera transmise de génération en génération, de ville en ville, de pays en pays, la personne, elle est récompensée, elle prend la récompense de chaque transmission de cette science-là. ثم بيان فضيلة العلم. On voit ici aussi la valeur énorme de la science. La valeur et l'importance de s'asseoir et de prendre une science profitable, même si elle est minime, même si elle est petite en soi, eh bien cette science-là peut être une source énorme de hasanat pour toi. Une seule science. Naam. Il suffit que tu aies enseigné à quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'il faut dire quand tu sors des toilettes. Tu dis à la personne, quand tu sors des toilettes, tu dis « Rufranak ». Tu as enseigné à la personne un seul mot, « Rufranak ». Il se peut que ce seul mot-là, tu la retrouves, « Yom al-Qiyama », une montagne de hasanat. Pourquoi ? Parce que la personne qui l'a apprise de toi, elle l'a transmise à un tel, qui l'a transmise à un tel, qui l'a transmise à un tel. Et cela a duré des siècles et des siècles, des milliers d'années, jusqu'à Yom al-Qiyama. Ghufranak. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer. N'importe quelle science que tu peux inculquer à quelqu'un, transmets-la. Tu dis à quelqu'un, tu as transmis à quelqu'un une sunna. Une sunna. Tu lui dis, quand tu t'habilles, commence par le côté droit. Quand tu mets ton qamis, commence par le bras droit. Quand tu mets ton sirouel, commence par la jambe droite. Quand tu rentres à la mosquée, rentre par le pied droit. Des fois, on sous-estime. On sous-estime. Ce n'est pas parce que nous connaissons cela qu'on ne doit pas le transmettre et qu'on considère que c'est rien, c'est une chose que tout le monde sait, non? Des gens qui ne le savent pas. Il y a des gens qui ne le savent pas, donc transmets, quel que soit ce que tu as appris comme science profitable, transmets-la. Transmets-la car tu ne sais pas ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala te réserve comme hasanat yawm al-qiyam. خامسا الحث على الاستكثار من العلم وترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح والبيان. Cinquièmement, ce hadith nous encourage à, bien sûr, à multiplier et à agrandir notre savoir. D'accord ? Et nous incite donc à enseigner ce savoir-là à travers les ouvrages, à travers l'explication aussi. N'hésite pas à clarifier ce que toi tu as compris, alors que ton frère, lui, ne l'a pas bien compris. N'hésite pas à clarifier et à exposer les choses aux gens, à leur expliquer, yani, les choses qu'ils n'ont pas comprises. T'as eu ? Non. Donc cela nous incite à développer et à apprendre, yani, à chaque fois de plus en plus de choses concernant la religion. سادسا بيان أن الدعاء وصدقة يصل ثوابهما إلى الميت. Sixièmement, ce hadith nous apprend que la dua, l'invocation ou la sadaqa, eh bien la récompense atteint le mort. Elle atteint le mort comme on a vu. D'accord ? Dua wa sadaqa. D'accord ? Donc tu as le droit, bien sûr, d'invoquer pour les morts, en faveur des morts, mais aussi de faire sadaqa pour eux. Tu fais une sadaqa pour eux, ceci est légiféré. Sabi'an, elle hathu ala tarbiyatil awlad liyakounu salihin hatta tanfa'a da'watuhumul aba'a ba'd al maut. Septièmement, il nous incite aussi à éduquer nos enfants sur l'obéissance à Allah, sur la piété, sur la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala, afin que tu puisses profiter de ton enfant après la mort. Donc celui qui a laissé derrière lui, un enfant qui ne prie pas, il ne pourra pas profiter de l'invocation de son enfant après sa mort. Ou un enfant yani, qui ne connaît pas, qui ne craint pas Allah tabarak wa ta'ala, qui vit dans l'insouciance, qui vit dans les passions de la dunya, comment pourra-t-il profiter de l'invocation de son enfant? Il aura laissé derrière lui un gâchis énorme. Et en plus, il sera interrogé en plus. Il rendra des comptes sur l'éducation de son enfant. Donc non seulement il ne pourra pas profiter de cette dua, et en plus, il se peut qu'il soit châtié pour ça. Il se peut qu'il ait commis des péchés à cause de son manque d'éducation, le fait qu'il n'ait pas inculqué à son enfant cette éducation religieuse. Donc au contraire, celui qui a laissé un enfant pieux, un enfant qui craint Allah tabarak wa ta'ala, lui forcément, il profitera bi'idhnillah de son enfant, même après sa mort. Que ce soit à travers les du'as, à travers les sadaqat que son enfant il va faire, à travers la propagation de la science que son enfant il a apprise de son père ou de sa mère, tout ça il profitera de son enfant. Donc il faut vraiment que le père ou la mère éduque son enfant en cela, car il en profitera même après sa mort. Voyez ? Et son enfant lui à son tour inculquera cela à ses enfants à lui, et ainsi de suite, de génération en génération. ثامنا فضيلة الزواج من المرأة الصالحة لطلب الولد الصالح الداعي بظهر الغيب. Et également le mérite d'épouser une femme pieuse, une femme vertueuse, croyante, qui va inculquer aussi à son enfant donc cela, et qui va faire que son enfant va invoquer donc en secret pour son mère, pour son père et pour sa mère. D'ailleurs, donc bien sûr, si tu veux que ton enfant soit pieux, eh bien tu as tout intérêt à choisir une femme pieuse, une femme vertueuse qui va inculquer aussi, qui va donner cette éducation à la religieuse, car il se peut malheureusement aussi que l'enfant, que le père soit absent à cause du travail, à cause de plein de choses. Donc il faut laisser à la maison une éducatrice, une enseignante, ça y est, pour tes enfants. S'ils n'ont pas fait leur devoir, ce qui est le fait d'enseigner à son enfant la religion, tawhid, etc., il se peut qu'il soit jugé. Il se peut qu'il soit. Il va rendre des comptes par rapport à ça, parce que c'était son devoir.
Même si l'enfant il est pieux.
Même si l'enfant il est pieux. Après, si l'enfant il est pieux, eh bien, Inch'Allah ta'ala, il va faire des invocations pour ses parents. D'accord ? Donc, ils vont en profiter. Ils vont profiter de la piété de leur enfant, malgré ça. Mais le devoir qu'ils avaient vis-à-vis de leur enfant, ils vont rendre des comptes, yawm al-qiyamah. D'accord ? Ils vont rendre des comptes, na'am. Chacun est responsable de ses proches. Chacun est responsable de ses proches. Et pas seulement les frères et les sœurs, mais ça va jusqu'aux voisins, jusqu'aux musulmans de manière générale. D'accord ? Donc le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est pas juste entre le père ou le fils, ou le frère et la sœur, ou... Non, ça c'est envers tout le monde, envers toutes les créatures. Et plus il y a de la proximité, et plus la personne elle aura un droit envers toi. D'accord ? Bien sûr, ton frère ou ta sœur de sang, eh bien forcément, il a plus de droits sur toi que celui qui est éloigné ou qui n'a pas de lien de sang avec toi, forcément. Il aura plus de droits sur toi. Tu comprends ? Par exemple, comme disent les ulama, le voisin qui a un lien de parenté avec toi et qui est proche de toi, lui, forcément, il a son droit, il est fort. Il est plus fort que le voisin qui n'a aucun lien de parenté avec toi. Mais malgré ça, de manière générale, on doit, yani, transmettre tawhid, transmettre la religion à tout le monde. Chacun en fonction de sa connaissance et en fonction de ses capacités, bien sûr.
C'est vrai. Quand le soleil se couchera vers son levant, ce sera toujours profitable. La demande de pardon, c'est pas.
Allah. Il a yom al-qiyam. Jusqu'au jour de la résurrection. Là, concernant le lever du soleil de son couchant, ça c'est par rapport à la taouba. Ça c'est par rapport à la taouba, le repentir. Le repentir, lui, ne sera plus accepté à ce moment-là. D'accord ? Ça concerne le repentir. Après, à quel moment exactement la récompense ne sera plus acceptée ? Allah. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى السلام ورحمة الله قصيدة يقول الشاعر إذا مات ابن آدم جاء يجري عليه الأجر عد 13 علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والثمرات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم شهيد للقتال لأجل بر كذا من سن صالحة ليقضي فخذها من أحاديث بشعري. Puis on finit sur ça, inshallah ta'ala. Juste, ce sont quelques versets, quelques vers de poèmes qu'a rapporté ici le Cheikh, Fidhallah ta'ala. Il faut savoir que ces vers-là, en vérité, puisent leurs origines d'un poème de l'imam Suyuti, Rahimahullah ta'ala. Mais là, le nom du poète ici, je l'ignore. Il dit, lorsque l'enfant de Adam est mort, sa récompense continue à lui être bénéfique dans 13 choses. Donc il a réuni 13 choses. Il dit des sciences qu'il a propagées durant sa vie, des connaissances, des savoirs qu'il a propagées. Première chose. Deuxième chose, du'a ou najlin, donc l'invocation de ses descendants. Que ce soit ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Ou même ses... Hein, et tu peux y aller. Troisième chose, le fait d'avoir planté un palmier. Donc les palmiers font partie des arbres les plus bénéfiques. Quatrième chose, des fruits. D'accord ? Cinquième chose, le fait d'avoir laissé des masahif. Des mushaf, des masahif. Sixième chose, les ribat, thagrin, la chose dont on a parlé tout à l'heure, le fait d'avoir participé à la construction ou à l'ouverture des postes d'avant-garde, de sécurité, des pays, etc. D'accord ? Ensuite, le forage des puits. Et également, le fait d'avoir permis à des rivières ou des fleuves de couler. D'accord ? Ou alors la construction de refuge ou d'auberge pour les voyageurs, pour les étrangers. Par exemple, des na'am, ou des endroits qui construits pour l'évocation d'Allah, pour le rappel d'Allah, pour l'enseignement, par exemple, les écoles, ou le fait d'enseigner le Coran. Également celui qui est mort, celui qui est mort dans une bataille ou un combat, yani pour propager le bien, pour faire quelque chose de bien, d'accord. Donc il est mort en tant que shahid, en tant que martyr, et en plus sa récompense, elle est continue. Pourquoi? Parce que le bien pour lequel il est mort, lui continue à exister. Donc tant que ce bien là pour lequel il est mort continue à exister sur terre, et bien la récompense aussi pour lui, elle est ininterrompue et elle est continue. Et également celui qui a qui a revivifié ou qui a fait revivre une sunna, qui a fait revivre une sunna qui avait été délaissée par les gens, et bien même après sa mort il en est récompensé. Il attend que les gens fassent vivre cette sunna là après sa mort. Donc il dit le cheikh, toutes ces choses là bien sûr sont puisées des hadiths authentiques de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. طيب الحمد لله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى نسأل الله تبارك وتعالى يغفر لنا ولوالدينا ولأبي هريرة ولأمه للمؤمنين والمؤمنات والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما بارك الله